Et ça fait déjà un an, et pour l'instant, on n'a toujours pas de nouvelles d'eux. Et par contre, pendant une année, on a eu toute une série de mensonges venus de l'État, qui petit à petit, quasiment par miracle, nous avons réussi à montrer que tout était faux. Et que l'État s'est donné un mal de fou pour rendre ce qu'ils ont appelé la vérité historique sur le cas Ayotzinapa. Et ils se sont auto-ridiculisés en montrant des conclusions complètement invraisemblables. Tout ça pour essayer de cacher ce qui s'est vraiment passé cette nuit. Donc vous pouvez imaginer, leurs conclusions déjà sont assez atroces, elles sont assez terribles. Donc d'après la vérité historique de l'État mexicain, donc du procureur Murillo Caram, et les étudiants, ils avaient séquestré des bus, ils allaient vers la ville d'Iguala pour, soi-disant, interrompre un meeting politique de la femme du maire de la ville d'Iguala. Donc la police municipale les a arrêtés, ils ont fait le tir, ils ont tué sur place personne. Ensuite, cette police municipale, donc il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux de police au Mexique, donc la police municipale c'est le niveau le plus bas, disons. Ensuite, la police fédérale, ensuite on a la marine, enfin l'armée. Et ils ont tout fait pour essayer de rendre la police municipale la seule coupable de toutes ces exactions. Et dans la vérité historique du procureur, les étudiants, la police les a pris, les a transportés dans des camions. Et ils les ont donnés au cartel, à un groupe de criminels connus avec le nom des Guerreros Unidos. Et ce serait eux qui les ont exécutés, et tués et brûlés dans une décharge de déchets, et ensuite jetés les cendres dans une rivière. Donc, toutes ces conclusions-là, il suffit d'avoir deux doigts de front pour comprendre que ce n'est pas vrai. Quand on regarde les évidences, on n'a pas besoin d'être des experts, des médecins légistes, des médecins légistes ou quoi que ce soit, pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de mensonges. Et il y a eu beaucoup de scientifiques mexicains, différentes personnes qui se sont des académiciens qui sont allés parler au procureur en démontrant que de façon scientifique, c'était impossible que les faits se soient déroulés comme ils les ont racontés. Par contre, ils n'ont pas voulu écouter, donc en tant que Mexicain, on n'a jamais écouté, mais quand même, les parents des étudiants, ils ont réussi quelque chose de très bien pour eux, c'est réussir à faire intervenir la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Ça aurait été mieux que ce soit la Cour pénale internationale, donc à la haie, parce qu'eux, ils peuvent émettre des sanctions. Ils peuvent vraiment punir des États, ils peuvent punir des fonctionnaires qui ont fait mal leur travail. Donc le Mexique, quand ils ne voulaient pas la Cour pénale internationale, ils ont accepté la Cour interaméricaine. Cette Cour, elle peut mettre que deux recommandations, mais elle ne peut pas punir. Mais c'est pour eux, c'est déjà un peu mieux. Donc cette Cour interaméricaine, ça fait un an qu'elle travaille sur le cas. Les parents, ils ont aussi exigé des médecins légistes extérieur parce qu'ils ne pouvaient pas croire au procureur avec tous ces mensonges. Et donc, grâce à ça, on a l'équipe des médecins légistes argentins qui sont très reconnus dans le monde parce qu'ils ont intervenu dans plusieurs cas internationaux quand il y a eu des disparitions aussi en Argentine qu'ailleurs. Et ils sont vraiment très reconnus. Ils ont une carrière de 20 ans à l'ONU, ils sont très reconnus. Personne dans le monde ne remet en cause leur efficacité. Et donc là, viennent tomber les conclusions aussi bien des médecins légistes argentins que de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, il y a quelques jours. Et l'État mexicain, dans son hypocrisie, il se permet de juger ses experts comme si c'était des gens qui ne connaissaient pas leur travail, etc. Et même au lieu de leur parler, essayer de comprendre leurs conclusions, ils ne font que dire qu'ils ont dit faux, que c'est eux qui ont la raison, tout ça. Donc vraiment, l'État mexicain n'a aucune intention d'aller vers la vérité, mais la cacher au maximum. Alors pourquoi cacher ce qui s'est passé? Parce que déjà les conclusions du procureur sont déjà assez affreuses, parce que quand même accepter que la police municipale était suffisamment corrompue pour donner les étudiants au cartel, mais c'est déjà, l'État déjà est un défaut, parce que jusque-là, on peut savoir, la police municipale, ça fait partie de l'État. Mais ce qu'ils ont voulu cacher à tout prix, et d'ailleurs tous les journaux internationaux, très vite, ils ont répété la vérité historique du procureur. Donc c'est pas l'État, c'est les groupes criminels, et ça leur a rangé énormément. Et voilà ce que maintenant on sait, c'est qu'ils ont voulu faire tout un théâtre de fausses déclarations. C'est pour cacher à quel degré l'État est corrompu. L'État était à tous les niveaux à participer à ces massacres la nuit du 26. Donc, avec les conclusions, on se rend compte que c'est pas la police municipale. Si, ils ont participé, ils ont fait le plus gros des boulots, c'est-à-dire qu'ils ont tué directement 6 personnes la même nuit, dont des adolescents qui étaient dans un autre bus qui n'avait rien à voir avec l'histoire. Ils ont tiré dessus une passante et des étudiants sur place. Le lendemain, on a trouvé un étudiant torturé dans un état vraiment atroce, impossible d'oublier son image. Ensuite, on se rend compte que la police fédérale était aussi dans le coup, qu'ils ont toujours su les mouvements des étudiants et que les militaires aussi étaient dans le coup. Donc, ces trois niveaux qui sont gouvernés par différentes instances, hein, ils ont des têtes différentes. Donc, si les trois niveaux étaient dans le coup, ça veut dire quoi? Que tout en haut de la pyramide, jusqu'à la plus haute sphère, tout le monde est impliqué dans ces massacres. Donc ça va très très haut, ça va jusqu'au ministre ici c'est l'équivalent de l'armée, enfin, je sais pas comment, le ministre des Défenses. Ça va jusqu'au président, ça va bien sûr au gouverneur, le maire bien sûr, mais ça va vraiment très très haut. Et c'est ça qu'ils voulaient cacher. On a des nouveaux éléments qui nous font encore plus comprendre pourquoi autant de méchancetés envers ces étudiants. On sait qu'ils étaient très mal aimés parce que ce n'est pas la première fois qu'ils tuent des étudiants de cette école. Déjà il y a 3 ans, ils ont tué 2 étudiants qui sont venus faire des réclamations au gouverneur de l'État pour dire voilà, les toilettes ne marchent pas, voilà, on a besoin de payer les cantines parce qu'ils ne nous servent plus à manger. Donc c'était juste des demandes normales. Et par contre, à cette fois-là, il y a déjà eu 2 morts. Donc ces étudiants, ils sont mal aimés de l'État parce que c'est des étudiants qui viennent d'une école qui revendique beaucoup la lutte sociale. C'est une école qui cherche à défendre une zone qui est extrêmement riche en matière d'intérêt économique, de l'or, de l'argent, etc. C'est un lieu de passage des cartels de la drogue. C'est un lieu où il y a la récolte de la drogue. Enfin, on sème la marijuana et la récolte. Et ils sont plus à défendre que les étudiants qui vivent dans ces communautés très pauvres ne touchent pas aux drogues, que quand il y a des paysans qui se font malmener par leur patron, ils viennent défendre les lieux pour dire, bon, voilà, vous le payez. Enfin, donc ils sont très mal aimés parce que c'est des gens qui revendiquent ce que l'État ne veut pas que les gens revendiquent. D'ailleurs, cette école, ils avaient déjà un programme pour le faire disparaître. Il n'apparaissait même pas dans la nouvelle réforme éducative parce que pour eux c'était fini. Les écoles rurales, on allait les faire disparaître dans les 6 ans. Ils voulaient les transformer en toutes ces écoles en écoles de tourisme. Donc, c'est-à-dire tous les profs qui allaient dans les communautés les plus pauvres apprendre les enfants à lire et écrire, ils allaient se trouver à faire des lits pour les touristes, à nettoyer les hôtels et les communautés, on n'avait rien à faire. Donc, ce qui s'est passé le 26, c'est peut-être un mélange des 2 choses. Déjà que ces étudiants, ils étaient gênants. On voulait trouver un bon prétexte pour dire, voilà, c'est des écoles où il n'y a que des vandales. Et de l'autre côté, on découvre un nouvel élément qui avait été très bien caché par le procureur, qui avait fait tout en sorte pour qu'on ne les sache pas. C'est qu'en fait, cette nuit-là, il y a eu, dans les dires du procureur, il y avait eu 4 abus. Et ils avaient caché un 5e bus. Et là, la commission se rend compte que ce 5e bus, c'est un bus qui est clé dans ces cas. Et si on lit entre lignes, on comprend ce qui s'est passé cette nuit. Et on prend la dimension, et c'est très douloureux, de se rendre compte à quel point notre État, c'est vraiment un narco-État. Un État qui fait, soi-disant, la lutte contre les cartels, mais en réalité, il défend les cartels. Donc ce cinquième but, il semblerait qu'il transportait de la drogue et de l'argent, des cartels. Et donc quand les étudiants séquestrent ce bus pour aller à Chilpancingo, ils ont pris leurs sous, quoi. Ils ont pris leur drogue et leurs sous et ils envoient la police pour défendre leur business. Et ils s'acharnent parce que dans leur tête de criminels, ils pensent que les étudiants voulaient voler leur business. Seulement, ils ne savaient pas du tout, ça ne leur intéressait pas du tout. Et c'est pour ça qu'il y a eu un acharnement terrible contre ces étudiants pensant qu'ils voulaient voler leur argent. Et d'ailleurs, ce bus, il était très bien protégé, très vite récupéré, custodié. Il n'y a pas eu de balles sur ce bus, il n'y a pas eu de tirs. Et il a été custodié par la police. On se rend compte aussi que toutes les films qui se sont faits sur les faits, c'est tout faux. Tout s'était basé sur trois témoignages complètement contradictoires. Et on se rend compte que ces trois personnes, ce n'étaient que trois maçons extrêmement pauvres qui ont été torturés et qui on a forcé à raconter un tas de bêtises pour essayer de rentrer la vérité historique du procureur. Donc là, vraiment, on se prend plein dans la figure et des faits terribles pour notre pays. On pense, en fait, c'est une photo, une fragmentie de tout ce qui se passe. Donc on voit à quel niveau il y a une corruption terrible, à quel niveau, tous les niveaux, ils sont dans les coups pour protéger ces cartels, quoi. Et les citoyens, on se retrouve au milieu à se prendre le coup. Donc là, ça fait un an. On ne sait pas du tout où ils sont. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour qu'ils soient vivants? Peut-être. Il y a des anciens militaires qui disent qu'il y a des prisons clandestines dans l'armée. Il y a des gens qui peuvent être enfermés pendant 20, 30 ans. Il y a de l'espoir, peut-être qu'ils sont dedans. Et peut-être. De toute façon, ils ne savent pas. Peut-être qu'à un moment, ils ne savaient plus quoi faire. Peut-être qu'ils les ont gardés en disant, on va voir comment ça se passe. Enfin, il y a quand même un peu de l'espoir. Et de toute façon, les parents, si on se met 5 minutes, enfin même 5 secondes à leur place, on comprend que tant que tu n'as pas la sûreté que ton fils est mort, tu lutteras jusqu'au bout. Et on ne peut que les soutenir parce que le non-savoir, je pense que c'est plus dur qu'être sûr qu'il peut enterrer l'enfant de ton fils. Donc voilà. Et donc c'est ce que vous voyez ici, c'est une exposition faite par des illustrateurs. Tu veux le prendre ? Non ? Des illustrateurs qui ont fait. Au tout début, on avait des photos vraiment très. Aussi manipulées par le procureur. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ce service qui fait des enquêtes, mais on appelle ça la procuraduría, où ils mettaient des photos des étudiants, ils ont été un peu tirés, tachés, etc., pour faire en sorte qu'ils aient l'air des vandales, quoi, des criminels. Donc maintenant, il y a des illustrateurs qui se sont mis à la tâche à faire des photos un peu plus humanisées de chacun de ces personnes. Qui sont encore portés disparus. Eux, ils sont 43, comme un grand nombre de Mexicains, 130 000 personnes portées disparues, assassinées, etc. Donc voilà, il n'y a pas que les étudiants qui se prennent beaucoup de violence, il y a aussi tous ceux qui contestent le pouvoir, donc beaucoup de journalistes. On a un pays où ces problèmes, ils disent, c'est un des pays les plus dangereux pour les journalistes actuellement, plus que des pays en guerre. On a justement moi des doutes, encore un journaliste assassiné de la façon la plus violente. Et donc voilà, si vous voulez, je présente actuellement le programme de la soirée parce que je vois qu'il y a un peu plus de monde. Donc là, on a fait un peu plus ou moins l'accueil. On a parlé de ces cas terribles d'Ayotzinapa. Et donc le 26, ça va faire un an de cette disparition. Et donc nous avons prévu. Et au Quai de la Dorade, à 19h, faire une espoir pour Ayotzinapa. Et donc on va libérer des lanternes avec une photo de chacun de ces étudiants dans la Garonne. Et on va les suivre un petit peu. Il y aura de la vente des tamales, donc c'est un plat typique mexicain, et des boissons chaudes. Donc si vous voulez nous accompagner, on sera vraiment heureux de vous voir là-bas. Et on essaie d'envoyer ça aux parents. On va essayer de faire une vidéo et envoyer ça aux parents pour leur donner un peu d'espoir. Ensuite, après cette présentation, il y aura une performance, justement, ça sera présenté sur les thèmes de tous ces journalistes au Mexique Il y a un grand nombre de journalistes qui servent à l'État, que c'est vraiment, on dit ça, les lacayos du pouvoir, donc justement les petits caniches du pouvoir, où ils n'informent pas vraiment, ils sont juste là pour lécher les bottes de l'État. Mais il y a un petit nombre de journalistes qui risquent vraiment leur vie pour faire leur travail. Et je pense qu'on leur doit vraiment beaucoup, nous, en tant que Mexicains, on devrait beaucoup plus reconnaissants de ce qu'on est. Parce qu'ils font un travail formidable et grâce à eux, on connaît beaucoup de choses qu'on ignorait autrement. Et grâce à eux, d'ailleurs, grâce à qu'ils ont fait leur travail, ça n'a pas tombé à l'eau tout de suite, cette histoire des étudiants, parce que très vite, l'État il voulait les faire passer par des trafiquants de drogue. Ensuite, nous allons avoir la présentation d'un livre qui s'appelle « Mourir au Mexique » de John Gibler, qui a été traduit en français. Donc, d'ailleurs, la traductrice est là. Donc, on pourra faire une super présentation tout à l'heure. Donc, c'est un livre qui parle beaucoup de la guerre des cartels, enfin, les grands problèmes qui existent au Mexique avec les cartels, la guerre que Calderón a déclarée, soi-disant déclarée, au cartel de la drogue, qui a commencé en 2002, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et donc c'est une guerre qu'on paye tous les jours avec du sang, et c'est une guerre où il y a déclenché beaucoup de violence au Mexique, mais finalement on se rend compte qu'il n'y a pas eu d'effet positif, les cartels sont de plus en plus riches, les cartels mexicains maintenant sont devenus les plus riches du monde, les plus puissants du monde, donc on se rend compte que ce n'est pas du tout une guerre contre les cartels, mais pour favoriser les potes qui sont avec l'État. L'État il a mis la main mise dans l'histoire. Et après toute cette partie que je vous raconte, que c'est vraiment fort triste et tout ça, on va avoir quand même un peu de lumière dans ce Mexique qui est très coloré, où les gens sont très... Ils ont beaucoup de bonheur à donner, et malgré ça, il y a des gens qui résistent, qui essaient de trouver des solutions à autant de violence, au fait qu'ils se font piétiner, que les cartels récupèrent leurs terres, que les cartels essayent le maximum d'abuser, quoi. Aujourd'hui, on voit la traite humaine dans notre pays, on voit l'esclavage, on voit des enfants qui tombent dans les mains des cartels. C'est triste de parler de tout ça, mais n'empêche qu'il y a des gens qui résistent et qui apportent des solutions à leur échelle, et que bon, ça donne un petit espoir pour nous. Et ensuite, à 21h, on fera un repas et on profitera pour faire une discussion et dialoguer un peu de toute cette soirée. Et finalement, juste une petite remarque, c'est qu'actuellement, il y a ce qu'on appelle escuchatorio, c'est ça ? Donc 43 étudiants où on va, et là, on est en train de se faire enregistrer. Et ça va être répété dans d'autres radios, aussi bien en France que dans le monde.
Voilà, c'est à partir de vendredi soir, pendant donc 43 heures. Et Escuchatorio, c'est un groupe de gens qui se sont associés parce qu'ils considèrent que produire du son et écouter du son, c'est un acte politique. Et que donc partout dans le monde, si tout le monde se met à ensemble pour produire du son pour Ayotzinapa, ça apporte un réel soutien aussi. Donc il y a des enregistrements partout dans le monde et c'est diffusé soit dans des lieux, soit dans des radios partout dans le monde aussi. Donc vous pouvez vous connecter par le biais d'Escuchatorio ou bien par le site de Canal Sud.
Par le site de Canal Sud, il y a un lien qui sera établi. Donc là, le son commence à Canal Sud à être diffusé à partir de vendredi soir minuit. Il sera diffusé dans la journée aussi par intermittence, mais vous pouvez aller vous connecter à Escuchatorio et vous aurez l'intégralité du son.
Très bien, donc on va passer aux performances. Et bonne soirée.
Allô. Donc bonsoir, si vous voulez vous approcher un tout petit peu, vous êtes tous les bienvenus à cette soirée Mexique à un an des événements d'Ayotzinapa. Donc, la performance qu'on va vous présenter à continuation est faite de 5 textes, 5 parties. Le premier texte a été écrit par Sandino Bucio Dovalli, un étudiant et activiste qui s'est fait séquestrer pendant les manifestations massives pour Ayotzinapa l'hiver dernier et qui, heureusement, a été libéré après quelques heures grâce à la pression de l'organisation des étudiants Yo Soy 132. Et les autres quatre textes ont été écrits par Cal Rios et Santi Vera, et deux des amis de Ruben Espinosa et Nadia Vera, donc un photojournaliste et une activiste qui se sont fait assassiner avec trois autres femmes le 31 juillet à la ville de Mexico. Et voilà, donc cette performance est un hommage et aussi un cri de justice pour toutes ces victimes, au nom de toutes ces victimes du narcotrafic mexicain. La historia se repite. Estudiantes encarcelados por exigir una mejor educación, por preferir ser libres y sabios en vez de aprender a sobrevivir callados, trabajando para las maquinarias de la explotación. Estudiantes desaparecidos, secuestrados, torturados por militares sin corazón, que fueron embrutecidos por el Estado. Estudiantes asesinados a las orillas de los caminos por ser un estorbo al andar de ese monstruo voraz que se llama capitalismo. Un estudiante fue desollado y le arrancaron los ojos porque pudo ver las mentiras de los poderosos. Le arrancaron los ojos para causarnos terror. Pero no temeremos de sus balas de miedo. Pueden matar a uno, a miles, a millones. Pero siempre habrá jóvenes combatientes conspirando en un rincón. Les cobraremos cada ojo, cada diente,
cada diente,
cada una de las muertes.
Somos la nueva palabra,
el nuevo fuego,
la nueva flor. Hermana mía, ahora que sos ubicua, ¿también sos materia? ¿Dónde están esas manos que tomaron la mía cuando niños? ¿En dónde reside tu voz ronca? ¿En dónde habitan tus ojos grandotes? Si vos no sos materia, ¿entonces qué sos? ¿Vos? ¿Historia? ¿Bandera? ¿Poesía? ¿Noche? ¿Día? ¿Fotografía? ¿Palabra? Hermana mía, ahora que sos tiempo, que sos viento, que sos nochecita con frío, que sos un caldo con mucho limón y mucho chile, que sos los tacos del tío Jul, que sos cerveza y cigarro, que sos conversación. Aunque estemos hablando de lo que vamos a comer, quiero preguntarte, ¿qué es la palabra? Aparecer.
¿Qué es la palabra aparecer?
Desaparecer.
Aparecer.
Desaparecer.
Si vos apareces en todos lados y me orillas a usar bufanda aquí en los altos de Chiapas, si vos apareces y me orillas a tomar mi cámara para encontrarte en esos amaneceres y en esos atardeceres y en el tiempo y en el viento, ¿vos sos la palabra aparecer? Mamá dice que ya no hay palabras, que todas se han ido, pero yo creo que vos ya estás en todas las palabras. ¿La palabra es materia? Hermana mía, voz de voz ronca, ubicua, voz que sos rostrito inundando plazas, espacios virtuales, conciencias, cuerpos, canciones, poemas, bosques, amaneceres. Vos que has desatado tanto amor en este hermoso país y en el mundo. ¿Sabes que te extraño? ¿Sabes que necesito que aparezcas? Y llorar. ¿Cómo dejar de llorar? Voy que levito llorando, voy por las calles llorando, río llorando. Hoy te vi, Rubén.
Hoy te vi, Rubén. Entre los pocos manifestantes creí verte.
Entre las máscaras de tu rostro, te vi tomando fotos.
Te vi y reí llorando.
A veces uno no se da cuenta cuán poco vale la vida hasta que se encuentra la muerte. Eran pocos, éramos tan pocos que la vida vale verga, igual que la muerte. Tu memoria bella que lloré de rabia, de angustia. Lloré detrás de los policías que nos tomaban fotos, de los curiosos, de los ignorantes que se compran esos pseudonoticieros, del... Pero él estaba ligado con el narco, ¿no? Lloré a tu memoria ni 20 días. Te lloré, Nadia. Te lloré nombres. Sentí como lágrimas incendiarias caían de mis ojos. Te lloro dormido. Te lloro en mis sueños. Ayer te pedí perdón. No me dijiste nada. Me digo, esto no está pasando. Como un mantra, como el niño que se esconde bajo la cobija para que no le pase nada. Sigo de pie, construyéndome una tumba, porque hoy no tengo dónde caer bien muerto. Uno sabe que uno construye su lecho. El mío no está listo, me falta labrarle un rato. Porque uno sabe, poco, pero sabe, que también la muerte se merece. Porque uno se mantiene en pie, y no por uno, creo por dos o tres que uno ama. porque uno carga lo que dos o tres van levantando. A veces seguir de pie puede ser tortuoso. Uno quiere doblarse de dolor, amansarse perezoso, destruirse. Andar de pie se hace costumbre, es una lumbre, luz que te ilumina. Se camina cuando se está más perdido, se domina el shock, se pierde el miedo. Nos están dando la doctrina conocida, con ese acervo que va quitando voluntades. Ahí es cuando uno no sabe ni cómo, tal vez por inercia, que sigue en pie, aunque tenga llagas. Así como hacen fórmulas para romperte, uno se va haciendo algunas para levantarse. Hacer de la palabra vestimenta, porque uno se mantiene en pie, y no por uno, sino por dos o tres que uno ama.
Les habita una tristeza inusual, como quien mira a un fantasma que aún no conoce su muerte. Y hay tantos rostros sin muerte, tantas fosas clandestinas, tanto silencio.
Hay tantos nombres rodando y tantas como velas encendidas. En los campos de niebla miro fantasmas blancos regresando a casa. Dicen que vivo se hunde, pero que muerto flota. Dicen, y aquí estoy, lanzando aviones de papel al abismo, botellas selladas para que te llegue mi canto.
He visto el miedo en los ojos.
Le pude sostener la mirada.
Encendí un cigarro.
Desperté entre tus piernas.
Casi decidido.
Como siempre.
A huir.
A ratos me digo, se acabó. El odio le ganó a la razón. Nada tiene sentido. Pero a ratos revivo. Me explico que el mundo gira y yo con él. Y que mi mente vira para toparse a mil recuerdos. Que vale la pena lo que vale la vida. Los observadores silentes te miran curioso. Y parece ser un animal herido, de circo herido, de muerte herido. Pero siempre vuelvo al amanecer para renacer.
Qui en a déjà assassiné un grand nombre de journalistes qui lui tiennent tête.
Et le pire de tout, c'est qu'il avait dit plusieurs fois, il était filmé en train de le dire, qu'il avait été menacé de mort. Et ce qui avait exalté la colère de ces gouverneurs, c'est que c'était qu'un photojournaliste, en fait, il ne faisait que prendre les photos au bon moment, au bon endroit. Et c'était une photo de ce gouverneur tel qu'il est, gros, belge, qui mange comme il mange l'État, et avec sa casquette de police qui est en train de terroriser l'État de Veracruz. Et il n'a pas aimé cette photo, il a fait acheter tous les journaux pour pas qu'on voit sa photo de lui. Et depuis ces jours, il a commencé à avoir des menaces de mort, des intimidations, des gens qui avaient l'air des militaires, qui le regardaient, qui le suivaient chez lui. Donc il a fui à Mexico, et c'est à Mexico qu'il a été assassiné. Et parmi ces cinq femmes, il y a cette femme, Nadia Beram, une anthropologue, qui avait écrit toute une thèse pour expliquer la violence de l'État de Veracruz, comprendre pourquoi autant de violence. Donc c'est quand même très dur de voir des gens formidables se faire disparaître de cette façon par notre État, et que les mensonges continuent. On va voir les cirques qu'ils vont nous faire pour justifier. Ils ont commencé tout de suite par dire que c'était quoi un vol de l'appartement. Très vite, ça a été démontré que non, ils justifiaient que non, les gens, ils étaient nés à différents endroits de la République, donc ça n'avait rien à voir avec l'État de Veracruz, n'empêche que Nadia a fait sa thèse à Veracruz sur l'État de Veracruz, donc bien sûr qu'il y a un lien politique, donc c'est encore des personnes qui donnent leur vie pour essayer de construire un meilleur pays. Voilà.